L'habitude de Michel de nous attirer vers la personne de Dieu, vers la nécessité de comprendre qui il est. Parce que cette prise de conscience est effectivement au cœur de notre relation avec lui. Peut-être tu peux baisser un tout petit peu le son, s'il te plaît, Luc, parce qu'il y a un petit écho. Un tout petit peu. Merci. Et ce matin, nous allons parler effectivement de prière. Et vous allez découvrir avec moi que nous avons besoin effectivement de réaliser qui est l'Éternel pour mettre à la bonne mesure notre relation de prière avec lui. Peut-être qu'il y a plein de phénomènes qui nous trompent sur le sujet, et peut-être un de ces phénomènes, c'est paradoxal, mais c'est sa grâce, c'est le fait qu'il se soit rapproché de nous d'une façon tellement proche, tellement humble. Et la Bible nous en parle, ça a été dit dans les prières. Lui qui était l'égal de Dieu, qui n'a pas hésité à renoncer à cette gloire pour venir jusqu'à nous. Mais le fait qu'il se soit rapproché de nous et que nous ayons maintenant un accès direct auprès du Père n'a rien changé à la nature de Dieu. Dieu est le même saint, le même puissant, le même éternel. Et nous, peut-être que nous nous trompons ou que nous manquons de réaliser cela. Merci en tout cas pour ce rappel qui va nous aider dans notre lecture et notre partage de ce matin. Alors, la semaine prochaine, nous aurons le privilège d'accueillir notre frère Yann Newberry et son épouse, justement pour un séminaire de prière. On va passer la journée de samedi ensemble. Et il a souhaité, il nous a proposé justement que nous introduisions ce sujet aujourd'hui pour nous préparer toute la semaine à ce moment particulier. Alors, si vous n'avez pas encore rempli et travaillé le petit document qui vous a été donné, eh bien, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est cette semaine qu'il faut le faire pour vous préparer au week-end prochain. Prière, parler, connaître, aimer. Tout ça, ces trois verbes sont des actions concrètes de ce qui se passe dans la prière. En guise d'introduction, je voudrais attirer notre attention sur justement l'image que nous avons de Dieu. Et d'abord, pour que ce soit plus simple, peut-être l'image que nous avons les uns des autres. Alors, pour mettre un petit peu de dérision dans mes propos et vous réveiller, je vais vous parler de la journée de la femme qui a eu lieu cette semaine. Donc, vous en avez entendu parler, j'espère. Peut-être que certaines ont décidé que c'était le jour favorable pour dire à leur mari, voilà, attention, aujourd'hui c'est différent. J'ai écouté la radio ce jour-là, j'y ai entendu pas mal de bêtises et d'excès, beaucoup de dérision, bien que, à bien des égards, le sujet de l'égalité de traitement, par exemple, soit tout à fait important. Je ne veux pas le mépriser, évidemment. Alors, les conflits, les difficultés de compréhension ont toujours existé entre hommes et femmes. Il est vrai que nous ne sommes pas identiques. Ceux qui disent ça se trompent. Nous ne sommes pas sensibles exactement aux mêmes choses, etc., etc. Et les hommes reprochent beaucoup de choses à leurs femmes, notamment de trop parler, par exemple. Et les femmes reprochent à leur mari, en retour, de ne pas assez leur parler, ou de ne pas assez les écouter, par exemple. Elles ont souvent raison. Alors, je ne vais pas polémiquer sur ces sujets ce matin. Je voulais juste vous faire sourire par cette introduction avant de nous engager dans un sujet un peu plus sérieux. Et je vous propose d'écouter en images ce que disent Mafalda et ses amis dans la bande dessinée bien connue. Si vous ne connaissez pas Mafalda, vous allez découvrir. C'est une bande dessinée sud-américaine qui date d'une quarantaine d'années. Voilà ce qui se passe. Tu t'imagines une femme présidente de la République, Felipe? Ô grand Dieu! Eh bien, si tu veux savoir, nous les femmes, nous sommes plus intelligentes que les hommes. Et meilleures, et plus nobles. Ça le fait sourire, hein. Et plus douces, et plus tendres. Tu entends? Bon, elle a déjà saisi un gros caillou à la main, là, en lui disant ça. Et après, on dit que les femmes sont dures à comprendre. Sa seule réponse, ça a été la fuite. Voilà une jolie démonstration de la relation entre hommes et femmes à la mesure de ces gamins. Encore une. Je vous laisse lire. Alors à l'époque, ça n'existait pas, une femme président. Aujourd'hui, ça existe. Alors ce qui est suggéré ici, vous avez compris, c'est que la femme présidente qui aura accès aux secrets d'État, dès qu'elle les aura lus, elle ne pourra pas s'empêcher d'aller les partager avec ses copines. Voilà. Donc on comprend pourquoi. Bon, évidemment, c'est du second degré, ne m'en voulez pas. C'était pour attirer un petit peu votre attention sur justement les difficultés de compréhension et de relation qu'il peut y avoir entre nous. Et en parallèle, nous allons attirer notre attention ce matin sur nos difficultés de compréhension de nous-mêmes avec Dieu. Yann, qui nous conduira, j'en suis sûr, dans l'examen de tous les objectifs de la prière, de tout ce qu'elle contient, et de bien d'autres choses encore, sera avec nous donc samedi prochain. Et ce matin, j'aimerais que nous nous concentrions sur un seul sujet. Est-ce que nous connaissons exactement celui que nous invoquons dans nos prières? Est-ce que nous le considérons à sa juste place? Est-ce que nous utilisons le bon ton? Est-ce que nous nous plaçons, nous, à notre juste place dans nos prières? Est-ce que nous lui parlons suffisamment? Est-ce que nous lui parlons comme il faut? Etc. Prions. Père Céleste, nous sommes devant toi, ton peuple réuni avec humilité et faiblesse, en réclamant de toi, Seigneur, ta sagesse et l'intervention de ton esprit dans nos cœurs pour nous enseigner. Que ta parole puisse ce matin nous révéler un peu plus de ta personne, Seigneur, afin que notre relation avec toi progresse et que ta gloire soit manifestée. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager deux textes ensemble qui vont attirer notre attention sur la même chose. Et un premier texte ici dans Luc au chapitre 11. Voici ce qui est dit, Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et garde-nous de céder à la tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Un deuxième texte, dans Luc toujours, mais au chapitre 18 cette fois-ci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jusque-là, notre lecture de la parole de Dieu. Deux verbes sur lesquels je veux attirer votre attention ce matin. Parler, et d'abord lui parler, et puis, en second lieu, le connaître. Réfléchissons à cette action de parler, parce que la prière, c'est parler. La prière, c'est utiliser la parole. Et la parole, le dialogue, est un bel outil, indispensable, entre les êtres humains déjà. Ceux qui en sont privés en souffrent. Le dialogue, c'est le ferment des relations. Et en même temps, si les relations sont la chose la plus importante, elles sont aussi la plus difficile. C'est au travers des relations qui ne vont pas que souvent beaucoup de choses se dérèglent. Nos paroles sont un outil pour le bien ou une arme pour le mal, capable de bénir et de maudire. Et la Bible nous met d'ailleurs fortement en garde contre tous les travers de la langue. On aurait pu citer ce matin tout un tas de versets qui en parlent. Réfléchissons à cette action de parler. Et de parler à quelqu'un qu'on aime, en l'occurrence. Est-ce que je peux témoigner de l'amour sans parler? Est-ce qu'on peut se témoigner de l'amour sans se parler? D'une certaine façon, oui, mais sans se montrer de l'attention, ce n'est pas possible. Précisons, comment deux conjoints, par exemple, ou deux amis vont-ils apprendre à se connaître mieux, à s'aimer, à se faire confiance, sans se parler? Ne plus se parler, c'est une punition. C'est la conséquence de l'incompréhension ou de la haine. Et on entend parfois un enfant dire, celui-là c'est un méchant, c'est plus mon copain, je ne lui parle plus. Le fait de ne plus parler, c'est une sanction, d'accord? Je ne lui parle plus, même des fois entre voisins. Voilà, je ne lui adresse plus la parole. Sanction. Est-ce que vous imaginez, ou plutôt je vous pose la question, est-ce que vous rentrez à la maison le soir, messieurs, sans un mot pour votre épouse, sans un petit « je t'aime », sans s'intéresser à sa journée? Si c'est le cas, ne vous étonnez pas que votre couple aille mal, et si ce n'est pas encore le cas, ça va vite arriver. Comment pouvons-nous imaginer, de la même façon, que Dieu va se satisfaire d'une relation médiocre avec lui? Comment pensez-vous qu'il juge notre égoïsme dans la gestion de notre temps, alors que nous passons combien ? 2 minutes en prière, et 2 heures devant la télé, 5 minutes en prière et 3 heures au stade de foot. Est-ce qu'il doit se sentir compris? Est-ce qu'il doit, au travers de cette attitude, interpréter qu'il a la première place dans notre vie? Doit-il vraiment se sentir aimé et croire lorsque, et nous croire lorsque nous le disons? Mais si Dieu réagissait comme il le devrait, ce serait terrible. Si nous nous comportions avec notre conjoint comme nous nous comportons souvent avec lui, mais on serait tous divorcés. La relation, la connaissance réciproque nécessite absolument un dialogue. Il nous faut nous connaître. Il nous faut connaître Dieu. Comment connaître Dieu sans dialoguer avec lui? Comment dialoguer avec lui sans l'écouter? L'écouter par la prière, l'écouter par la parole de Dieu, par la lecture de la Bible. Comment lui montrer qu'on s'intéresse véritablement à cette relation si on ne lui parle pas? Voilà ce qu'est la prière, une occasion de dialogue, une occasion extraordinaire qui nous est donnée. On a la possibilité effectivement de nous approcher du Dieu Saint en direct, sans intermédiaire, sans passer par un prêtre, sans passer par des formules magiques. On peut s'asseoir sur notre lit, on peut s'agenouiller, on peut se coucher, on peut faire comme on veut, dans n'importe quel lieu, et nous adresser directement à lui. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons assez, à la mesure de ce que nous disons l'aimer? Réfléchissons à cette notion de connaissance réciproque. Nous devons le connaître. C'est mon deuxième sujet de réflexion. Le connaître. Il y a quelques jours, dans notre groupe de maison, nous avons évoqué la relation de Job avec Dieu et le long dialogue qui a eu lieu à l'occasion de cette grande maladie qu'il a subie et tous ses malheurs. Job croyait connaître Dieu, mais c'est peu à peu, au fil du long dialogue qui s'installe, que Dieu met devant Job le caractère saugrenu de ses paroles, la mauvaise vision qu'il a de lui-même, de Dieu. Et il faut du temps et beaucoup de répétitions, dans beaucoup de souffrances, pour que Job arrive finalement à mesurer la réalité du fossé qui le sépare du grand Dieu de l'univers, créateur, et qu'il mesure vraiment, vraiment d'une façon très sincère, sa petitesse. Et les paroles de Job à la fin de son histoire sont tout à fait riches d'enseignements et revêtent une profondeur extrême. Job reconnaît et dit ces paroles qui sont très fortes. « Mon oreille avait entendu parler de toi. » On pourrait dire aussi « Intellectuellement, j'avais enregistré un certain nombre de notions. »« Mon oreille avait entendu parler de toi. »« Mais maintenant, mon œil t'a vu. »« Maintenant, j'ai réalisé qui tu es. »« Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Conséquence ? C'est pourquoi je me condamne. Je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. La prise de conscience de qui est Dieu amène Job à une humilité dans laquelle il n'était jamais entré. Et pourtant, Dieu disait de Job que c'était un juste, le juste, fidèle en tout cas. Est-ce que nous pouvons nous vanter de la même affirmation? Est-ce que vous pouvez dire chacun pour vous-même, Dieu peut me voir comme Job, je suis le fidèle, je suis le juste. Moi, je ne me mets pas dans son camp. Donc si je ne suis pas au stade de Job, comment, peut-être ni vous, comment est-ce que nous allons espérer connaître profondément notre Père Céleste sans passer du temps à lui parler? Sans lui parler autant que Job l'a fait. Alors, je nous souhaite que Job ne nous fasse pas tous passer par les mêmes circonstances douloureuses. Que Dieu, pardon, merci, ne nous fasse pas passer par les mêmes circonstances que Job. Mais, en tout cas, nous avons tous besoin de passer par la même, par le même dialogue, la même découverte de la personne de Dieu, pour comprendre qui il est et qui nous sommes. Est-ce que, par exemple, nous nous étonnons que Dieu ne réponde pas à nos prières? Mais combien de temps, chaque jour, lui parlons-nous? 2 minutes, 5 minutes, un quart d'heure? Dieu attend un contact profond. Il veut nous connaître, il veut être connu, il nous aime, mais il veut être aimé. Il veut être aimé. Vous dites au Seigneur que vous l'aimez? J'espère, je l'entends des fois dans les prières. Et je le crois, je vous crois. Je ne remets pas ça en question. Mais quand on aime, il faut le montrer. Et un des meilleurs langages de l'amour, c'est le temps passé avec la personne qu'on aime. Dans Luc au chapitre 11, l'exemple de la proximité de Jésus avec le Père fait envie aux disciples. Et on voit que c'est après que Jésus ait passé du temps dans la prière, que l'un de ses disciples est venu le voir et lui dire « Mais écoute, apprends-nous aussi à prier, parce qu'on veut, on veut bénéficier de cette même relation avec Dieu. » Et alors Jésus, d'abord, est-ce que cette envie est une bonne motivation? Oui, absolument. On ne peut pas leur reprocher, on doit avoir la même. Alors Jésus répond à leur demande et explique rapidement comment construire leur prière. Et on pourrait passer beaucoup de temps à regarder ce qu'il y a là-dedans. Et vous voyez rapidement là, au verset 2, ce que Jésus propose. Il propose de reconnaître Dieu comme Père. Il propose de lui rendre toute la gloire. Il propose d'appeler à l'avènement de son règne comme principale motivation. Il propose de reconnaître que tout vient de lui, y compris notre pain quotidien, et de ne pas oublier d'implorer le pardon pour nos fautes. Mais je veux juste attirer votre attention sur le fait que ces versets 2 et 3, 4 là sont assez courts et que le texte n'est pas fini. C'est comme si il semble que Jésus là ne soit pas satisfait par le fait de simplement transmettre une technique de prière. Et comme Dieu l'a fait avec Job, Jésus ici entraîne ses disciples dans la comparaison de leur propre personnalité, de leur propre attitude, avec celle bien différente, bien plus parfaite du Père Céleste. Vous voyez, hein, tout ce qui est dit ici, la relation avec un ami, la relation avec les enfants. Et la conclusion de Jésus est la suivante. Vous êtes méchant, vous êtes mauvais, vous êtes enchaîné par votre nature humaine. Et pourtant, vous savez quand même prendre soin de vos enfants et répondre à leurs demandes. Tentez alors d'imaginer comment le Père Céleste, saint, juste, parfait, peut répondre avec abondance aux requêtes de ses enfants et les combler. Il s'agit bien en effet d'une prise de conscience de la personnalité de celui à qui nous nous adressons dans la prière, de sa personnalité et de la nôtre. C'est parce que Jésus connaissait le Père intimement que la prière était tellement importante pour lui. Il ne pouvait pas s'en passer. Il devrait en être de même pour nous. Est-ce que nous savons quoi mettre dans nos prières? C'est bien, c'est important. Est-ce que nous sommes capables peut-être de réciter le Notre Père, qui ici est en quelque sorte résumé? Pourquoi pas, on peut le faire. Mais Plus important encore, et c'est visible ici par tout le temps que Jésus prend à expliquer à ses disciples ce qui doit se passer dans la prière, c'est de comprendre à qui nous nous adressons. Dans le deuxième texte que nous avons lu, c'est l'histoire de ce juge inique. Et dans cette parabole, la veuve, est-ce qu'elle sait à qui elle a affaire ? Mais oui, elle le sait. Elle connaît la dureté de son cœur, du cœur de ce juge, et elle n'espère pas l'émouvoir par sa situation. Mais elle lui répète inlassablement les mêmes choses. Elle adapte son attitude en fonction du personnage, et finalement, elle obtient gain de cause grâce à sa persévérance. Alors, est-ce que Jésus ici souhaite comparer l'attitude de Dieu à celle de ce juge ? Est-ce que Dieu serait aussi méchant et sourd et qu'il faille répéter, rabâcher auprès de lui pour que finalement il daigne nous répondre ? Pas du tout. Mais il nous dit « Dieu est votre Père ». Vous êtes ses élus. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ? C'est un mot important et on n'a pas le temps de... Mais nous sommes ses élus, ceux qu'il a choisis. Et est-ce qu'on peut croire qu'il va se désintéresser de nous ? Nullement. Mais comment lui témoigner notre amour ? Comment lui démontrer notre foi ? Par quelques courtes prières, capricieuses ? Je dis capricieuse pour qu'on se compare un peu à des enfants. Seigneur, allez, tu me le donnes ce truc. Allez, 2 minutes de prière. Pourquoi je ne l'ai pas encore ? Et je passe à autre chose. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'on vienne lui expliquer notre besoin, qu'on vienne le lui réexpliquer, qu'on vienne lui démontrer notre attention et notre foi. Vous passez du temps avec lui. Venez passer du temps avec lui. Parlez-lui jour et nuit. Intercédez. Criez à lui jour et nuit. C'est ce qui est proposé ici. Ces élus qui crient à lui jour et nuit. Jour et nuit. Qui crient à lui. C'est ce niveau de relation qu'il attend. C'est cela qui le réjouit. C'est cela qu'il appelle la foi. Vous savez, quand j'ai écrit mes notes de ce message, je me suis arrêté pour prier, hein, parce que n'imaginez pas un seul instant que je ne me sens pas concerné par ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous juger, je me mets dans le même sac. Hein. Nous ne passons pas, c'est sûr, assez de temps dans la prière. Regardez comment Jésus termine son explication. On se demande d'ailleurs, quand on lit vite, qu'est-ce que ça vient faire là ? Il termine en disant, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» La vraie foi, qu'est-ce qu'il veut dire Jésus par là ? Celle d'hommes et de femmes qui ont appris à connaître Dieu au cours de longues discussions avec lui et qui savent toute la confiance qu'ils peuvent lui accorder. Peut-être des nuits de prière, peut-être des journées de prière, une régularité en tout cas dans la prière. Dieu te dit ce matin, Dieu me dit ce matin, je veux passer du temps avec toi. Est-ce que tu veux bien ? Est-ce que tu veux passer du temps avec moi ? J'ai envie de dialoguer avec toi. 5 minutes, ça ne suffit pas. Si vous n'êtes pas encore inscrit au séminaire de samedi, mes bien-aimés, ne partez pas aujourd'hui sans le faire. Nous avons une opportunité unique de venir passer du temps dans la prière d'une part, et aussi de nous laisser encourager dans cette démarche qui est indispensable, incontournable. Ne passons pas à côté de l'appel de la parole de Dieu, sans quoi la Bible n'aurait aucun intérêt. Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Écoutons l'enjeu qui est là. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si nous voulons que notre foi s'enracine, perdure, rayonne, soit visible et se transmette autour de nous, eh bien c'est ce chemin que Jésus propose. Il n'y en a pas d'autre. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, je me repens de mon attitude et de mon égoïsme. Je te demande pardon pour toutes les occasions manquées de relation avec toi, tous ces rendez-vous que je n'ai pas honorés. Je voudrais, comme Job, me placer dans la poussière et dans la cendre et te dire avec sincérité, avec toute la sincérité dont je suis capable, pardonne-moi. Je voudrais te dire, Seigneur, comme Pierre, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Mais viens à mon secours, je suis trop faible. Je veux mieux te connaître, je veux mieux t'aimer, je veux mieux te prier. Accompagne-moi dans ce chemin. Nous te confions, Seigneur, le week-end prochain et le temps que nous allons passer à prier et à te chercher. Aide-nous, aide-moi à m'engager dans ce temps avec notre frère que tu as préparé, que nous puissions nous y engager avec joie et enthousiasme, que ce moment puisse constituer un renouveau pour ma relation avec toi, afin que tu sois glorifié comme toi seul tu en es digne. Amen.